Bonjour André, bon début de semaine, on se fait plaisir avec Hiro et Style Fresh et c'est doucement sur Africa Radio, bienvenue. Nous accueillons donc notre première invitée de la matinée, j'accueille une grande dame des médias du côté de la Côte d'Ivoire, animatrice radio et télé et directrice de Fréquence 2, c'est la deuxième radio du groupe RTI et passage à Paris, c'est Mariam Koulibaly qui nous rejoint sur le plateau. Bonjour Mariam, comment ça va?
Bien merci, bonjour Aïssa, bonjour à tous vos auditeurs.
Alors moi, ça va très bien. Toujours très heureuse d'accueillir les femmes qui sont très actives dans les médias sur le continent africain. Et d'ailleurs, vous êtes directrice de Fréquence 2 depuis 2016. Vous avez pris la relève de Didier Bléhou, affecté à la direction de la RTI 2. Et vous connaissiez déjà Fréquence 2 puisque vous y aviez été chef des programmes. Avant de rejoindre la RTI 2, vous avez été responsable éditorialiste de la chaîne. Et en 2016, vous avez été nommée donc directrice. Trois ans déjà que vous êtes à la tête de Fréquence 2. Quel serait le bilan? Qu'est-ce qu'on pourrait dire en trois ans? Qu'est-ce que vous avez réussi à révolutionner, entre guillemets?
Alors, Aïssa, peut-être avant de commencer de parler du bilan de la direction de Fréquence 2, c'est peut-être de dire qu'en fait, j'ai fait tout mon parcours à Fréquence 2. D'accord. Je suis entrée à Fréquence 2 depuis 2000. Ouais. J'y ai gravi les échelons en tant qu'animatrice d'abord, avant d'entrer donc dans l'administration et de faire que ce soit des programmes ou de la production et ainsi de suite. Alors depuis trois ans maintenant que je suis à la tête de Fréquence 2, faut dire que nous avions eu beaucoup de difficultés au fil des années. C'est vrai que nous avons été la première FM, mais les années après, une dizaine d'années après, la concurrence s'était établie et ça n'avait pas été évident. Ouais. Donc du coup, nous nous retrouvions dans les méandres des classements et tout ça. Il a fallu remonter et mes prédécesseurs avaient commencé un travail formidable dans lequel je me suis engouffrée. Et aujourd'hui, on peut dire que Fréquence 2 apparaît comme... fait partie des meilleures radios donc, à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Parce qu'en termes de couverture, nous sommes à plus de 90% de couverture du territoire national. Ouais. Et en termes d'infrastructure, aujourd'hui, on peut se targuer d'être la première radio qui fait vraiment de la radio filmée avec un système qui permet une réalisation telle qu'on est à la télé.
C'est vrai qu'Abidjan est devenu, en l'espace de quelques années, un véritable carrefour. Et c'est vrai que de nombreuses radios sont arrivées, des radios privées. Il y a l'offre également sur Internet qui concurrence un peu la radio. Et dernièrement, vous avez décidé d'améliorer un petit peu la radio en la filmant. Alors, comment ça se passe, la radio améliorée?
Ben, ça se passe très bien. C'est une autre expérience, c'est une autre façon de vivre la radio. Et le concept qu'on a mis à la suite donc, de ce lancement, c'était désormais vous regardez la radio. Ouais, au lieu de l'écouter simplement. Et les auditeurs adhèrent, les internautes adhèrent. Le pic pour le téléchargement de l'application est énorme. Ben, du coup, on se dit que c'est forcément un avantage et c'est quelque chose qui permet aux auditeurs de vivre la radio différemment, de vivre une expérience et de participer à cette expérience-là comme des acteurs... mais de façon active.
Alors, Fréquence 2, une radio créée en novembre 91, c'est une chaîne thématique de divertissement et d'accompagnement qui s'adresse majoritairement à la jeunesse.
Alors oui, la jeunesse, mais pour nous, la jeunesse, il faut l'entendre comme un état d'esprit plutôt que l'âge.
D'accord,
ouais. Donc, parce que nos auditeurs qui ont commencé à nous suivre dans les années 90, aujourd'hui, sont des personnes qui sont en phase de construction de leur, que ce soit la vie professionnelle, la vie privée, la vie familiale. Donc, ce sont des personnes qui ont quand même besoin d'un certain accompagnement pour arriver à maturation, quel que soit le domaine qu'ils auront choisi, dans lequel ils auront choisi de s'investir. Donc, thématique, oui, parce que nous avons décidé de faire du divertissement, mais nous accompagnons vraiment nos auditeurs. L'humour est un point essentiel dans notre grille, donc on a énormément d'humour. D'ailleurs, l'émission qui cartonne le plus, c'est Place Publique.
D'accord, en fait, qu'est-ce que c'est comme émission?
Voilà, c'est un espace dans lequel on a essayé de mettre, ce sont des humoristes, des comédiens, mais qui caricaturent la vie politique, la vie sociale de la Côte d'Ivoire.
D'accord.
Donc on dédramatise les sujets les plus graves, les sujets politiques, et on les rend un peu plus digestes, on en fait des sujets pour rire, tout simplement.
Alors justement, c'est une question qu'on se pose souvent sur la liberté de parole, justement avec ces humoristes qui parlent de politique. Oui. Est-ce qu'ils peuvent tous se permettre, ou de temps en temps, vous allez un peu leur tirer les oreilles lorsqu'ils dépassent certaines limites, on va dire?
Mais non, alors l'équipe de Guy Michel Ablé a cet avantage-là d'être vraiment libre. C'est vrai que j'ai pour habitude de dire, l'on peut aborder toutes les questions, on peut qu'on ne se substitue pas aux politiciens. À partir du moment où on n'est pas politicien, on est juste humoriste, mais qu'on regarde l'actualité ou la politique, les gestes politiques sous l'angle de l'humour, la pilule passe plus facilement. Et même quand on tire un peu les cheveux au... les oreilles aux uns et aux autres, ils en rient eux-mêmes, du coup, la guerre n'est pas est très, très loin de nous et je pense que tout le monde y va de bon cœur.
Alors, je constate avec beaucoup de plaisir qu'il y a pas mal de représentativité féminine dans les médias en Côte d'Ivoire. Ouais. On voit que les femmes sont là, elles ont des postes de directeurs, mm-hmm. elles gèrent les équipes, elles sont à l'antenne, elles sont journalistes. Et vous aussi, ça fait partie aussi de vos préoccupations, ouais. Améliorer le sort des femmes en général et surtout de dire aux femmes, allez-y, même dans des, certains secteurs où il y a beaucoup plus d'hommes, c'est vrai, comme les médias, mm-hmm. On a notre place et on a notre mot à dire.
Alors moi j'ai pour habitude de dire que la meilleure façon pour les femmes de s'imposer, ce n'est pas de revendiquer des places, c'est juste de faire leur travail et de le faire bien. Dès lors que vous faites correctement ce que vous avez à faire, vous attirez l'attention. Et je le dis, généralement la reconnaissance a beau être lente à venir, elle finit par arriver. Elle prend son temps certes, mais quand elle arrive, c'est tout le monde qui est unanime. Et je pense que les femmes qui aujourd'hui sont très en vogue, très en vue, sont des femmes qui ne se sont pas arrêtées à un moment pour dire j'ai envie qu'on me reconnaisse, j'ai envie qu'on fasse ceci. Ouais. Elles se sont contentées de faire correctement ce qu'on attendait d'elle, de faire même souvent plus parce que les femmes sont obligées de faire plus en matière de travail pour que certainement on s'arrête pour dire attention, il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Donc c'est un peu ça le quotidien de ces femmes-là et je suis fière de dire que nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice.
Alors justement, à l'heure de la libération, un peu partout dans le monde, de la parole de la femme, on a beaucoup parlé aussi de ce qu'elles peuvent vivre dans le milieu du travail. Alors justement, est-ce que ce sont des questions que vous abordez avec elles? Est-ce que c'est des thématiques dans lesquelles vous parlez justement? Ce regard qu'ont les hommes sur les femmes dans ces métiers-là, comment ça se passe avec les hommes, ça va
Alors, j'ai une équipe qui est en majorité constituée d'hommes. Et je pense que je dois être une vénarde parce que mes collaborateurs sont des personnes qui ont dépassé le fait d'avoir un chef qui soit une femme. Ouais. C'est pas ça le premier élément. Peut-être parce que je leur donne la possibilité de s'exprimer. J'écoute ce qu'ils ont à dire. C'est beaucoup plus une question de débat d'idées. Et c'est une guéguerre, mais une guéguerre des arguments. Ouais. Il faut réussir à convaincre les autres, les lier à soi pour les arguments qu'on a pu avancer, plutôt que parce qu'on est mec, parce qu'on est... Non, non. Mais on a beau avoir une voix grave, ma voix s'impose quand la raison y est. Quoi. Donc, on discute et on essaie de trouver le juste milieu parce que finalement, l'intérêt commun, c'est la radio et c'est ce que les auditeurs attendent de nous.
Alors, vous êtes de passage à Paris dans le cadre de vos activités, je suppose ou
On va dire un peu des deux. J'étais au Radio Days à Lausanne.
D'accord.
Donc, juste après, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'une semaine de vacances. Donc là, on va dire que c'est beaucoup plus vacances que travail.
D'accord.
Mais généralement dans notre travail, Aïssa, vous savez que on n'est jamais vraiment loin de son boulot, quoi. On n'arrête jamais de travailler parce qu'un sujet attire notre attention, une question retient notre attention et on est forcément...
Alors justement, ça va rejoindre un peu la question que j'avais envie de vous poser. C'est quoi votre journée type? Vous vous levez à quelle heure? Qu'est-ce que vous faites? En fait, je voulais juste qu'on se rende compte un peu du travail que vous devez abattre en une journée.
Alors, en temps normal...
Et surtout, vous êtes maman aussi.
Oui, maman d'une demoiselle de bientôt 17 ans.
D'accord.
Ça ne paraît pas, mais oui, quand même. Alors, mes journées sont plutôt longues.
Ouais.
Là, d'ailleurs, j'ai ma mère qui est tout le temps en train de me dire, mais tu dors pas. Parce que je suis lève-tôt, je suis couche-tard et je suis lève-tôt. Mais à 5h du matin, en plus avec le décalage en ce moment, c'est pas évident. Quoi.
Ouais,
donc
ouais.
Moi, à 5h du matin, j'ai les yeux qui sont ouverts parce que la radio démarre son direct à 6h. Et j'ai besoin d'être rassurée que toutes les équipes sont en place, qu'on n'a pas de soucis, qu'on n'a pas d'inquiétude à se faire. Là, par exemple, ce matin, il y a une équipe qui s'est embourbée parce qu'il pleut fort à Abidjan.
Ouais.
Mais bon, on a pu rattraper le coup. Donc forcément, dès 5h du matin, vous êtes debout et vous ne pouvez être tranquille que dès que l'entraînement
démarre. Vous êtes au bureau à partir de 5h
tous les jours? Non, pas au bureau, je suis à la maison.
D'accord, je suis okay, à la maison. Vous suivez en fait,
mais par contre, je suis...
D'accord, okay. Alors,
de tout temps, j'ai toujours été quelqu'un qui a besoin d'avoir un fond sonore, quel ouais. que soit ce que je fais. Donc, la musique, ça a toujours été quelque chose qui m'accompagne. Donc, moi, je dors avec de la musique.
Ouais, carrément.
Oui, oui, oui. En fond sonore. Quand il n'y en a plus, je me rends tout de suite compte.
Vous ne vous débranchez jamais, en fait.
Non, c'est difficile. On pensera que c'est peut-être parce que c'est lié au boulot. On m'a dit que ça a été exacerbé par le travail, mais à la vérité, j'ai toujours été comme ça. Au lycée, par exemple, mon père me disait, mais comment on peut étudier avec de la musique?
Ouais, c'est vrai, moi, j'en serais incapable.
Ah, mais pourtant, moi, c'est ce qui marche, en fait. C'est ça qui m'inspire. Okay. Donc, je peux être en train de bavarder avec quelqu'un et puis fredonner une chanson. Ah, mais tiens, j'aime la chanson, et puis je reviens dans le film.
D'accord, d'accord.
Sans me perdre, quoi. Donc, une journée, ça démarre dès 5h du matin. Après, aux alentours de 8 heures, je suis au bureau.
Ouais.
Je fais le petit point avec mes équipes, mes collaborateurs directs. Après, comme l'antenne se prépare quand même une à deux semaines à l'avance, c'est beaucoup plus de l'exécution pour les équipes de production parce qu'on a eu le temps de préparer avant, de s'entendre sur les angles à aborder et tout ça.
Ouais.
Et puis, il y a les rendez-vous parce que quand vous êtes manager, vous êtes au-delà de l'exécutif, vous êtes au-delà de l'opérationnel, j'allais dire, pardon. Donc il y a les rendez-vous, il y a les rencontres auxquelles vous devez prendre part. Donc ma journée s'organise un peu plus sur ça. Mais je commence toujours par un petit brief avec mes équipes et je finis la journée par un petit brief. Le temps de me dire, écoute, je rentre en me disant chacun sait ce qu'il a à faire et puis on est pépère.
Et puis après, quand vous arrivez le soir, vous continuez d'écouter les programmes pour voir si tout se passe
bien.
Oui,
les programmes accompagnent. À la maison, chez nous, tout le monde se réveille en musique. Ma fille, par exemple, prend son car à 6h30.
Ouais.
Donc 5h30, elle est déjà debout. Mais c'est vraiment la radio qui nous accompagne, elle connaît les rubriques, elle attend certaines étapes avant de partir. Et c'est un peu, on va dire, que la radio finit par rythmer votre vie, parce qu'après telle rubrique, vous savez que le matin, vous devez partir. Si vous n'êtes pas parti avant, ouais, c'est que vous êtes en retard et ainsi de suite. Mais le soir, quand je rentre, j'ai vraiment le temps de bavarder un peu avec ma fille, qui elle aussi a sa journée à me raconter,
ouais,
à ses petits bobos à me dire. On essaie de trouver les solutions, de partager un moment agréable, parce que dans la journée, tout le monde est parti.
Alors, puisque vous avez, vous aussi, été animatrice télé et radio pendant de nombreuses années.
Bah, je continue de l'être.
Vous l'êtes toujours. Ouais. Et d'ailleurs, alors, c'est quoi le rapport que vous entretenez avec vos équipes? Est-ce que vous êtes le boss un peu sévère? Est-ce que vous êtes le boss plutôt complice, ami? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que... On a toujours, nous les animateurs, il y a toujours des soucis d'égo. Il faut les accompagner socialement, chacun a ses problèmes. Il faut les rassurer pour qu'ils puissent donner du bonheur en retour aux auditeurs qui les écoutent. Quel boss êtes-vous?
Je ne suis pas très à l'aise pour y répondre parce que je pense que ce sont mes collaborateurs, mes agents et tout ça qui auraient pu
répondre à cette question.
Voilà, de façon efficiente. Mais je dirais que je suis un mélange de tout. Je suis celle, déjà ma politique, c'est la politique de la porte ouverte. La porte de mon bureau est cassée par essence. Tout le monde y vient, même s'il faut respecter la hiérarchie et respecter les étapes en termes pour ce qui concerne la production ou les programmes.
Ouais.
Mais chacun sait qu'il peut venir me rencontrer et discuter avec moi. Si c'est professionnel, on y va. Si ça déborde du cadre professionnel, je suis toujours une oreille attentive quand même pour mes équipes parce que j'ai appris que vous ne tirez le meilleur de quelqu'un que lorsque vous arrivez à le mettre dans un environnement où il est confiant, où il croit en lui-même. Donc, j'essaie de faire ce petit exercice-là. Mais quand il faut taper sur la table, je ne me gêne pas pour le faire. Et je pense que mes équipes, quand je tape sur la table, tout le monde se dit « Aujourd'hui, là, c'est chaud, quoi. » Ils me connaissent pour être quelqu'un de dur quand il faut, quelqu'un d'exigeant, de rigoureux, mais ils savent également que je peux être une épaule sur laquelle on peut s'épancher une fois en passant.
Et la passion pour les médias, ça vous est venu comment? Je sais qu'à la base, vous vouliez devenir avocate et surtout que vous avez commencé dans le domaine de la communication.
Du droit. J'ai fait des études de droit d'abord.
Ouais.
Pour ne rien cacher, en fait, ce sont mes encadreurs dès le lycée qui avaient décelé des aptitudes. J'étais très active dans l'espace scolaire, donc on me disait, écoute, tu t'exprimes bien, tu es vive et tout ça, va en communication. Mais ce n'était pas ce que j'avais envie de faire particulièrement. Je rêvais de faire du droit. Je me disais, soit je suis avocate, soit je suis magistrat. Et puis, le cours de ma vie m'a entraînée vers la communication. J'ai envie de dire que c'est la com qui m'a choisie. Et je me suis sentie à un moment bien dedans. Je me suis dit, bah, écoute, pourquoi me torturer pour continuer à aller à la fac, pour faire des cours en cours du soir et tout ça, quand j'exerce déjà une profession dans laquelle je m'éclate et dans laquelle je m'épanouis. Donc, je vais aller à l'école pour me donner les rudiments et les arguments pour tenir tête à tous ceux qui ont envie de faire ce métier. Donc, du coup, on va dire que c'est l'appétit vient en mangeant. Et là, je ne me rassasie pas, je continue. Et je continue d'avoir donc des relations de l'animatrice avec ses auditeurs, avec ses collègues animateurs, tout en ayant donc la casquette de responsable.
Alors, Africa Radio est de retour à Abidjan, 91.1, la fréquence historique. La concurrence ou plutôt des alliés?
Alors, la concurrence, on connaît, on est habitué. On apprend à regarder tout ce qui arrive de façon, j'ai envie de dire, enrichissante.
Ouais.
Et je discutais tout à l'heure avec l'un de vos responsables qui me disait...
Le directeur de la radio.
Oui, nous, on n'arrive pas pour faire de la concurrence. Je pense qu'il l'a mamadoué, peut-être. Non, mais ce que je dis, c'est que ça enrichit l'environnement.
Ouais.
Et... on n'a pas la même ligne éditoriale forcément. Donc non, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. C'est une nouvelle façon de travailler également qui va arriver. Et nous, on a l'avantage de nous enrichir de tout ce qui est nouveau et qui arrive, quoi. Donc non, concurrent, oui, parce qu'on occupe le même espace. Mais je pense que ça va être une bonne ambiance parce qu'à Abidjan, c'est ça d'abord.
Venir sur Fréquence 2.
Avec plaisir. Ce sera la première radio à recevoir Aïssa dès qu'elle met les pieds à Abidjan.
En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau, parce que je connais votre visage, hein, bien
ah
sûr.
Bon
mais bien entendu, bien entendu. Alors, quel est le dernier mot que vous avez envie de dire au public qui nous écoute ce matin?
Bah, de dire merci pour l'accueil déjà. de dire venez découvrir à Abidjan, venez voir ce qui se fait à Abidjan. Comme on dit chez nous, Abidjan, c'est le plus doux au monde. Donc, venir à Abidjan, c'est forcément l'adopter. Et les réalités à Abidjan sont telles qu'au niveau culturel, il y a une richesse inouïe. Parce qu'il y a un métissage qui fait que nous sommes riches, en fait, de la richesse de l'Afrique. Nous sommes riches de l'Afrique, de la richesse de tous ceux qui viennent. Nous ne refusons rien, nous ne repulsons rien.
C'est vrai.
Et du coup, ça fait que nous n'en sommes que plus agréables et plus attrayants. Abidjan, venez. Mais il y a aussi Fréquence 2. C'est vrai que vous connaissez Africa Radio. Venez découvrir Fréquence 2.
Abidjan, on arrive.
C'est
on
une
arrive.
Radio qui est gay, qui en fait a épousé la physionomie la sociologie de la population ivoirienne. Ouais. Donc, entrer en contact avec la radio, c'est entrer en contact avec l'ivoirien type.
Merci d'être venu ce matin, ça a été un grand plaisir. On marque la pause publicitaire, on se retrouve juste après avec le fondateur et le commissaire du FEMUA, Assal Faux, qui nous rejoint dans un instant en direct. Bougez pas.